sociaux. On serait un peu perdus comme des oiseaux. Sans nid. Sur les réseaux sociaux.
Alors, personne n'est capable de dire ce que c'est. Mais on trouvait ça assez marrant.
C'est plutôt sympa.
Ouais, les réseaux sociaux, c'est une enquête au niveau mondial qui montre qu'aujourd'hui, on met de côté les médias traditionnels pour s'informer sur Facebook, YouTube et TikTok.
Oui, 54% des gens interrogés dans cette enquête effectuée au niveau mondial disent avoir utilisé les réseaux sociaux et les plateformes vidéo pour s'informer dans la semaine précédant ce sondage. C'est seulement 52% pour la télé, donc les réseaux sociaux passent devant, 51% pour les sites et applications de journaux et seulement 21% pour la radio. C'est donc la grande bascule de l'information qui se confirme. Le public au niveau mondial s'informe désormais davantage sur Facebook, YouTube ou TikTok que via les médias traditionnels. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce rapport de 180 pages, hein, donc il est assez intéressant à découvrir, revient aussi sur des tendances de fond qui sont en train vraiment de s'installer. Par exemple, c'est la montée en puissance des formats vidéo, l'influence croissante aussi des créateurs de contenu, et je regarde Sam, dédié à l'info comme Hugo Décrypte en France par exemple, qui fonctionne très bien. Et à côté, il y a une perte de confiance dans les médias traditionnels. Ça va de pair, c'est-à-dire qu'on fait de moins en moins confiance dans les médias traditionnels, et donc on se tourne vers autre chose, avec bien sûr de ces nouvelles générations. Alors on imagine que ces nouvelles générations, elles reviendront pas sur ces habitudes prises. Alors est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou au contraire, bah, il faut s'adapter? Peut-être que les médias traditionnels doivent aussi réfléchir à faire leur propre révolution et se demander pourquoi aujourd'hui il y a cette perte de confiance.
Sam, 32-16 pour réagir avec les GG.
Ouais, non, mais je pense que c'est un sujet hyper intéressant dans le sens où la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les médias traditionnels ont perdu de plus en plus la confiance de leur public, la confiance des téléspectateurs. Les réseaux sociaux, s'ils prennent de l'ampleur, c'est pas parce que ce sont les meilleurs, c'est parce qu'ils abordent des sujets qui ont été trop longtemps délaissés par les plateaux de télévision. Les plateaux de télévision, et je pense que c'est ça aussi qui a retiré une forme de confiance chez les téléspectateurs, c'est mon analyse, sont pour la plupart, les plus grands médias sont gérés aujourd'hui par des milliardaires, et ils ont perdu de cette façon-là, c'est comme ça que je l'explique, la confiance des téléspectateurs, parce qu'aujourd'hui, on se dit quoi ? On se dit, est-ce que l'information que j'ai, elle est complètement... Elle est complètement décorrélée d'intérêt que peut avoir potentiellement un média ou une chaîne. Mmh. Et sur les réseaux sociaux, on a envie d'entendre parler des sujets qui nous préoccupent.
Oui, on a envie d'entendre quelque chose qui
on a envie d'une parole vraie. On a envie d'une parole simple
qui nous correspond plus qu'autre chose, quoi.
Si oui, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je pense que oui, sans doute, il y a une fausse prétendue objectivité, neutralité dans certains grands médias qui se prétendent neutres, mais en fait on sent bien que c'est pour faire fonctionner le système et que donc les réseaux sociaux proposeraient une information
anti-système un peu
anti-système, non pas marginale, mais qui viendrait éclairer des pans de l'actualité que n'éclaireraient pas les médias traditionnels. Pareil, mais néanmoins, je ne crois pas du tout qu'il y ait de la neutralité du côté des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de neutralité dans les réseaux sociaux qu'il n'y en a mais dans les plateformes.
La neutralité n'existe pas.
Voilà,
même chez n'importe quel journaliste, la neutralité n'existe pas.
Voilà, donc la question aujourd'hui, c'est le public. C'est-à-dire que moi, un jeune public qui est capable de comprendre que ce qu'il voit sur les réseaux sociaux n'est pas neutre, que c'est une opinion et qu'il doit se faire sa propre opinion en allant regarder d'autres influenceurs ou d'autres
tout
médias d'information,
tout dépend des créateurs,
d'autres créateurs de contenu. Oui. Mais moi, je crains, pour le voir avec les élèves et pour le voir avec les jeunes que je côtoie, c'est que à cause des bulles algorithmiques, ils n'écoutent que un type d'informations sur les réseaux sociaux et ils sont privés de du pluralisme.
Parce qu'il faut faut apprendre à différencier l'information de l'opinion et ça, voilà. Ça devrait être fait à l'école. Ça devrait être une matière.
On est bien d'accord. Donc là-dessus, Sam et moi, nous sommes complémentaires. Je pense que c'est à l'école aujourd'hui de transmettre quelque chose qui est essentiel, qui est la capacité aujourd'hui à aller chercher l'information, à traiter l'information et à penser par soi-même. Et là, les réseaux sociaux peuvent être intéressants. En revanche, des élèves qui n'ont pas les codes non plus de lecture et de compréhension, qui n'ont pas la compréhension du monde, qui n'ont pas de connaissances littéraires, qui prennent un mot pour un autre, eux, ce sont demain des proies pour des influenceurs qui peuvent être très dangereux sur les réseaux sociaux. Donc, il faut qu'il y ait un travail, je pense, tout à fait en adéquation et concomitant entre à la fois les créateurs de contenu et les enseignants, parce que de toute façon, les enseignants, on ne pourra pas faire autrement que d'aider nos élèves à avoir ce libre arbitre.
Les enseignants sont de gauche aussi.
Crois-moi, ça a bien changé.
Avec la gauche et la droite.
Ça a bien changé, Emmanuel, crois-moi.
Ce qui est plus grave psychologiquement, c'est que ça enferme les jeunes dans les écrans. C'est très bon pour les lunetiers au passage, mais ça modèle le psychisme. C'est très chronophage, tu n'ignores pas. C'est-à-dire que les jeunes passent un temps excessif, sans doute, sur tous ces réseaux sociaux.
Et les adultes aussi, la plupart. D'ailleurs, il y a une étude qui disait que c'était les adultes qui passaient plus de temps, et on en parlait il y a 15 jours. C'est les adultes, au final, qu'il faut prendre en compte et qu'il faut réguler, parce que c'est eux qui disent à leurs enfants ne passe pas des heures sur les réseaux sociaux, mais qui ont la tête collée sur le téléphone et qui donnent des leçons qu'ils n'appliquent pas à eux-mêmes.
Non, déplaise à la nature des actionnaires, les chaînes infos sont quand même plus objectives et plus efficaces que d'aller glaner sur des réseaux sociaux.
Elles sélectionnent beaucoup. Les chaînes infos, je trouve, certaines, hein, pas toutes, fort heureusement, sélectionnent beaucoup leurs sujets en fonction des
intérêts. Par exemple, Sam, quels sont les sujets?
Les créateurs de contenu aussi sélectionnent leur contenu.
Non, mais justement,
Hugo Décrypte, il a une façon de faire, excuse-moi, mais moi j'ai déjà regardé quelques vidéos d'Hugo Décrypte sur des sujets que je connais bien. Il y a un biais idéologique.
Il y a un biais pour tout le monde.
Non, mais sauf que lui, il se fait passer pour un mec neutre. Et je suis désolée, Hugo Décrypte, il n'est pas neutre du tout.
Mais voilà. Sam, comme n'importe quel journaliste, on l'a dit, comme n'importe quel humain. Aucun humain n'est neutre.
La neutralité, ça n'existe pas. C'est une matière humaine.
Pas neutre alors.
Non, mais en revanche, on peut revendiquer l'honnêteté intellectuelle. Et voilà, dans la face. L'état intellectuel est de raconter de raconter les faits et pas.
Tu veux un exemple, c'est ça?
Oui, des exemples, des sujets qui sont traités sur ces réseaux sociaux par rapport aux médias traditionnels.
Et ce qui était traité sur les réseaux sociaux, la situation géopolitique entre Israël et la Palestine. La Palestine, les premiers mois, on n'entendait pas parler. On n'entendait pas parler de Gaza. Il y avait une omerta sur les chaînes traditionnelles. C'était presque comme le masque à l'époque du Covid. Eh bien, bien sûr. Alors, c'était presque comme le masque à l'époque du Covid.
On n'entendait parler que de ça.
Non, pas sur les médias. Mais que dans un seul sens.
Ah bon.
Que dans un seul sens.
Trop pro-Israël, en fait.
Exactement. On n'avait pas, je suis désolé, en face de nous, les images pour permettre aux personnes qui étaient derrière leur écran de se rendre compte véritablement de la situation qui se passait véritablement aussi à Gaza. Ah,
parce qu'il n'y avait pas d'image.
Ça, c'est une parole qu'on a pu retrouver sur les réseaux sociaux. Et là, les Françaises et les Français se sont rendus compte, je crois, ça a été comme un déclic, en se disant, mais en fait, sur les réseaux, j'entends parler de sujets, je vois des images qui ne sont pas traitées dans les médias traditionnels. Et ça a renforcé la confiance aussi des réseaux sociaux.
Les images dont on s'est rendu compte pour beaucoup d'entre elles,
au-delà
de ce sujet.
Le coup de la famine à Gaza, on s'est rendu compte que toutes ces photos étaient manipulées.
Mais c'était pareil aussi de l'autre côté que l'histoire des enfants.
Non, mais au-delà de ce sujet, justement, quelle est la garantie, d'une manière générale, que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux est sourcé, vérifié, etc. Parce que dans une rédaction traditionnelle, il y a quand même une déontologie.
Un chef d'édition,
on vérifie. Alors parfois, il peut y avoir des erreurs.
Et une responsabilité éditoriale.
Voilà, des sources. C'est-à-dire qu'on donne une info, mais elle a été sourcée deux fois. Ça a été vérifié par un chef, etc.
En tant que créateur de contenu, je vais vous parler de mon cas. Parce que je suis présent. Je l'ai. Quand je suis attaqué, par exemple, en diffamation dans un tribunal, on me juge comme un organisme de presse. On me juge comme le directeur de la publication. On se dit pas, est-ce qu'il a fait des études de journalisme ou est-ce qu'il n'a pas fait des études de journalisme?
Et t'as été attaqué déjà?
Mais bien évidemment, je suis un organisme de presse et j'ai une vidéo inédite par jour. Après, ça dépend aussi de la déontologie de chacun. Moi, je sais que j'ai une déontologie où même si je n'ai pas fait d'école de journalisme, je fais tout pour me rapprocher au maximum des codes. Et je sais que je suis jugé avec cette sévérité-là dans un tribunal.
Mais toi, oui.
Et croyez-moi, même quand je suis relaxé, d'ailleurs, je suis une blanche colombe. Je n'ai jamais été condamné. Ça m'a coûté des milliers d'euros d'avocat. Je suis jamais rentré dans mes frais.
Toi, Sam, t'as jamais été condamné, mais est-ce qu'on a cette garantie, surtout les créateurs
Non, on ne l'a pas. Et c'est pour ça qu'il faut développer, c'est ce que disait Barbara, l'esprit critique. Et ça, c'est à l'école. Et au bout d'un moment, on en revient. Je suis désolé, mais encore à l'organisme de l'État, il faut impérativement donner des cours dès la primaire, dès le collège, un petit peu comme pour les relations intimes, le fait de faire attention à ce qu'on ne nous touche pas, etc., à préserver son corps, parce que on apprend aux jeunes à traverser la rue au passage piéton. On leur dit, il faut attendre que le petit bonhomme il soit vert. Faut regarder à droite, faut regarder à gauche. Faut pas sortir son téléphone parce que tu peux te faire écraser par une voiture ou un vélo. Oui, on leur apprend pas à traverser les réseaux.
Dès les années 70, les proches, m'excuse,
c'est pas tout ça.
Et barbu pour certains.
Nous obligeait
à soi-disant la liberté de conscience, l'esprit critique, etc. Et on se rend compte depuis ces 10 dernières années, et les auditeurs le savent, que quand il s'agit du Covid, quand il faut se faire vacciner comme des moutons de panurge, quand il faut dire que l'Ukraine n'a aucune responsabilité dans la guerre avec la Russie, etc. Eh bien, il y a un mouvement de masse et il y a aucun esprit critique et jamais la liberté de penser n'a été aussi faible.
Mais je suis d'accord avec toi. Mais mouvement de masse, pourquoi? Et pourquoi la liberté de penser et d'expression, elle a jamais été aussi faible? Parce que même sur les réseaux sociaux, croyez-moi, on a le problème avec les géants, avec YouTube, même si YouTube, je trouve, est quand même le plus safe, avec Instagram, avec TikTok. Il y a une véritable censure qui est appliquée. Il y a des mots qu'on est obligé de silencier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pédocriminel, par exemple. Notre vidéo peut sauter parce qu'on parle de pédocriminalité. Viol. Le mot viol, on est obligé de le silencier.
Oui, alors,
croyez-moi,
c'est marrant,
par rapport à la télévision, on a beaucoup moins de latence par rapport à ça.
Je me suis aperçu de ça il n'y a pas longtemps. Tu ne peux pas écrire viol en toutes lettres.
Ah bon,
tu es obligé d'enlever le i et de mettre une espèce d'astérisque.
Exactement.
Ou alors tu mets le logo.
Ça
ne correspond pas
sur
au
Facebook,
code.
Sur Facebook, on peut enlever ta vidéo ou ta photo parce qu'il y a un sein qui passe.
Il est certain qu'il a atteint le niveau de Sam en termes d'audience. C'est forcément un journaliste qui s'ignore et un grand professionnel
juste un
au passage.
La question de l'enseignement du libre arbitre et de la pensée par soi-même, ça passe pas forcément par apprendre à servir des réseaux sociaux. Tu peux apprendre le libre arbitre et la liberté de conscience et penser par soi-même en étudiant Victor Hugo, en étudiant Molière. C'est justement plutôt
en
lisant. Non mais comment?
Pas en 2026.
Si, parce que ça.
Il parle pas d'Instagram, Victor Hugo.
C'est pas ça. Ça t'éveille à la question de la pensée et aussi du temps que nécessite le temps de réfléchir à quelque chose, de se poser. L'immédiateté des réseaux sociaux, ça peut être travaillé bien sûr, mais en amont, il faut que les gamins soient capables aussi de se poser dans un temps de réflexion. Et les réseaux sociaux ne te permettent pas de
se
poser.
Mais là, il y a une urgence. Il y a l'enjeu de 2027, les élections présidentielles.
On a Olivier.
Il faut apprendre aux jeunes justement à décortiquer, à savoir ce que c'est.
Ça va être la grande manip.
Une malinformation, une mésinformation.
Et tu as l'IA qui va arriver, qui va pas arranger les choses aussi. Ouais. Nous sommes avec Olivier du côté de Hayange en Moselle, technicien audiovisuel. Bonjour Olivier.
Salut les grandes gueules.
Bonjour Olivier.
Ouais, je vais essayer d'être court. Deux choses. Bon, moi, j'ai la génération 72, la meilleure année. N'est-ce pas, Barbara? Et en fait, moi, c'est vrai que quand on était gamin, on avait l'habitude de regarder la télé, parce qu'il y avait que ça. Donc, on regardait souvent les JT le soir avec nos parents, etc. Et on a regardé ce réflexe-là. Moi, aujourd'hui, j'ai deux ados. Donc, j'ai une fille de 20 ans et un fils de 16 ans, qui regarde plus du tout la télévision. Et alors, oui, ils s'informent sur les réseaux sociaux. Mais moi qui suis aussi un peu les réseaux, ce qui m'embête, c'est qu'il y a très, très peu de contradictions. Et des fois, il y a des affirmations dont on se dit « Wow, c'est une super idée, il a raison, etc. » Mais les jeunes n'ont pas le réflexe d'aller se renseigner sur la personne qui dit cette affirmation, qui peut souvent être d'un parti extrême ou autre. Moi, c'est ça qui me dérange. Alors, j'essaye d'apprendre ça à mes ados en disant « Mais regarde la source, essaie de te renseigner, est-ce qu'il y a une contradiction quelque part ?» Et voilà, et qui parle, et ça m'embête beaucoup. Parce que du coup, ils n'ont plus du tout de référence. Et franchement, ça devient vraiment dangereux parce qu'il y a des jeunes. Moi, je vois, j'ai encore le fils d'une amie hier qui est c'est pas grave, mais il est à fond et les filles, le pauvre, et il dit des affirmations qui sont complètement fausses, mais parce qu'il se base uniquement sur ce qu'il entend sur les réseaux. Et le problème, c'est que, et je pense que les médias traditionnels, justement, ils ont encore un devoir à ça. Je pense qu'il faut. C'est aussi à vous à critiquer les informations de ces politiques-là. Un dernier exemple, je prends l'exemple. Par exemple de Bardella, par exemple. Monsieur Bardella, bon, je l'ai vu dans une émission, il avait perdu pied il y a quelques temps parce que il sortait de son discours classique. Mais je veux dire, personne va se renseigner sur qui sont ses conseillers, par exemple. Et lorsqu'on se renseigne un peu et qu'on creuse un peu, bah des fois ça fait peur. Et ces jeunes n'ont pas ce réflexe-là d'aller voir exactement qui dit quoi. Moi, c'est ça qui m'embête aujourd'hui. Et je pense que les médias traditionnels, il faut qu'ils se battent pour ça, justement. Et je pense que les réseaux, alors, attention.
Parce qu'ils cherchent uniquement un discours qui les conforte ou qui leur donne raison,
Et bah oui. Et moi, je suis déjà tombé sur des discours en disant, mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Et finalement, quand je vais chercher, parce que je connais pas bien cette personne à ce moment-là, quand je vais chercher un peu de quel bord il va, en fait, ils sont très, très malins. Parce que c'est un discours dirigé. pour attirer du monde, mais derrière, c'est une catastrophe.
Alors, Olivier, vous insistiez sur ces exemples que vous avez autour de vous, et on a posé la question d'une manière générale. Est-ce qu'à votre avis, les réseaux sociaux vont avoir la peau des médias classiques? Aujourd'hui, on s'informe sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est inquiétant? On va voir ce que vous en dites. Non, pas du tout, ce n'est pas inquiétant, et vous dites ça à 55%.
Voilà, la bascule. Ça, 55, on disait 54% s'informent avant tout sur les réseaux sociaux, on y est.